Moi, je suis rentré de mon travail au café oriental. J'ai repris totalement cette
histoire. Moi, j'ai fait les deux, on va dire, au cas d'engage. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen de la parole aux auditeurs. Le 6 avril dernier, à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Évariste Boshab, a plaidé pour le renforcement des conditions d'adoption des enfants congolais. Il estime important et sécurisant que ces enfants, une fois adoptés, soient bien traités et ne partent pas dans des familles homosexuelles. Le vice-premier ministre a affirmé qu'actuellement, il n'existe pas encore un organe central pour faire les suivis post-adoption qui pourrait avoir comme mission de coopérer avec d'autres services centraux des pays d'accueil des enfants. En attendant, Évariste Boshab propose de travailler en collaboration avec les services de suivi des enfants adoptés dans les représentations diplomatiques. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6340 pour intervenir en direct. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de cette émission réalisée et coordonnée par J.R. Lungembo. Julie Pézabongonda est au standard et Pierrot et la Mégie a le réel plaisir de vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sébujang et Fidèle. Auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
La sécurisation des enfants adoptés en RDC, les débats a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis plus d'une année. Plusieurs émissions ont été tenues, mais aussi des questions au Parlement. C'est au centre de cet échange que nous nous retrouvons aujourd'hui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être fait? Toutes les questions que les gens se posent autour des enfants qui sont adoptés en RDC. Où en sommes-nous aussi avec les différentes procédures d'adoption? C'est au centre de cet échange. Mais pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, à l'Assemblée nationale, a plaidé, je venais de le dire, pour la sécurisation des enfants congolais qui sont adoptés. Et puis, comme il n'y a pas encore un organe qui est chargé de suivre ces enfants dans le pays d'accueil, Évariste Boshab propose de travailler en collaboration avec les services de suivi des enfants adoptés dans les représentations diplomatiques. La question est au centre de notre échange. Je vous pense de cette proposition, comme je le disais tout à l'heure, au 081-890-6315 pour intervenir en direct. Mais nous avons associé à cet échange Albert Mpaka, directeur des cabinets adjoints au vice ministère de l'Intérieur, ou à la vice-primature ministère de l'Intérieur. Albert Mpaka, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Et bonjour à nos chers auditeurs.
Et où sommes-nous aujourd'hui? On sait que la question de l'adoption a fait couler beaucoup d'entre les salives en RDC. Il y a eu même des délégations étrangères qui ont débarqué au pays pour demander à la RDC de pouvoir mettre fin au moratoire. Il y a eu quand même des enfants qui ont été autorisés à quitter le pays. Alors, beaucoup de questions se posaient autour de cette situation. Où en sommes-nous aujourd'hui, d'une manière brève?
Où en sommes-nous avant cela d'où nous venons? Nous venons du fait que il y a eu beaucoup d'abus, effectivement. Au cours de ces 5 dernières années, le chiffre d'adoption internationale a exponentiellement explosé dans notre pays. Mmh. Nous pouvons prendre par exemple un petit exemple. En 2009, il y avait environ 65 enfants congolais qui ont été adoptés par des couples américains. Cela a explosé. On est passé de tout à rien. On était à 22 enfants en 2009. Mm-hmm. Et en 2013, le chiffre est passé carrément à près de 165 enfants. Vous vous rendez bien compte que dans cette optique, les chiffres ont carrément explosé. On a frôlé les 265 également dans l'année qui suit, et ça nous a mené quand même à une croissance de plus de 1300%. Mm-hmm. Cette explosion a fait que, effectivement, le système était quelque peu désabusé. Pour ma part, il y a eu des abus, pas toujours dans chaque procédure, mais cependant, les services ont quand même fait état de plusieurs abus. Nos enfants qui étaient orientés dans dans d'autres circuits, de la traite d'êtres humains, de la prostitution, des dons d'organes, et ainsi de suite. Voilà, c'est toutes ces allégations qui ont été portées, et cela a amené au chef de l'État, dans son leadership, de prendre une mesure de moratoire. Et bien, après le moratoire, où en sommes-nous aujourd'hui? Le temps du diagnostic des abus est passé, nous sommes en train de donner une réponse d'adulte aux problèmes d'enfants. Il ne faut pas oublier que tous nous sommes enfants d'hier, et si des responsables n'ont pas pris des mesures sur nous, nous n'en serons pas là, nous n'aurons pas pu avoir la rencontre avec notre propre destin.
Mm-hmm.
Voilà pourquoi aujourd'hui les adultes répondent. Il y a un projet de loi qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale par le gouvernement, et ce projet entend évidemment répondre à toutes les préoccupations qui ont été soulevées. En attendant, tous les dossiers qui ont été accumulés ont été soumis dans une commission interministérielle. Il y a eu 1000 dossiers environ qui étaient en souffrance, et ces milliers de dossiers ont été examinés. Et parmi ces dossiers, je crois que pour la plupart, on a donné des avis favorables pour la sortie d'enfants, et je pense que son excellence le vice-premier ministre intérieur, professeur Paris Prochal, a en toute responsabilité pris la disposition à exécuter la mesure gouvernementale qui avait demandé que ses enfants soient libérés et restitués auprès de leurs parents. Il y en a qui ont déjà trouvé évidemment le nouveau cadre familial qui les attendait, et il y en a qui sont en instance de départ déjà.
Voilà.
Et d'autres dossiers ont été évidemment récalés parce que là il y a eu effectivement des avis criants.
Et on sait que dans cette question de l'adoption, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens ont décrié, les jeunes gens ont décrié des trafics d'abord au départ ici à l'interne avec la multiplicité de d'orphelinats. Aujourd'hui, les déplacements d'enfants, on ne sait pas qui fait quoi, qui va où. Cela a aussi explosé, hein. On a pu avoir des informations sur Radio Capi avec des enfants enlevés. On a parlé des cas dans le Bandundu, on a parlé des Kikepa. Mais avant qu'on arrive même au traitement du dossier de l'adoption, mais quelles ont été les mesures par rapport au circuit de circulation de ces enfants, que ce soit dans les ONG, dans les orphelinats, mais aussi ces enfants qui partent d'une province à l'autre?
Voilà, les réponses, la finale des mesures est là, il est disponible. Aussi, comme vous le savez, l'adoption internationale demeure quand même une question transversale qui implique l'intervention de plusieurs ministères,
uh-huh.
Le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Femme, Famille et Enfants, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, bien entendu, et Sécurité, et le ministère des Affaires étrangères. Pour parler de l'adoption internationale.
Mmh.
La loi dans notre pays, le Code de la famille, la loi de 87, n'a pas prévu comme telle des dispositions claires et nettes sur l'adoption internationale. On a entendu une adoption simplement à l'interne, mais cependant, quelques dispositions ont pu, par extrapolation, servir des sorties d'enfants dans le cadre des procédures d'adoption internationale. Voilà, il y a également la loi de 10 janvier 2009, qui est venu sur la protection de l'enfant, bien entendu, et qui a ajouté trois dispositions, somme toute, qui ont permis, évidemment, d'organiser la procédure d'adoption internationale. Donc, ce sont, évidemment, ces dispositions qui ont été revisitées pour renforcer la protection des enfants, et la protection consistait, effectivement, à mettre un peu de verrou là où il y a eu des faiblesses, et à rappeler aux acteurs qui intervenaient de pouvoir faire correctement leur travail, ne serait-ce que respecter les anciennes dispositions qui existaient déjà. Ce sont ces deux manières qu'on a entendu répondre dans un premier temps à cette préoccupation. Je crois que il y a somme toute 6 ou 7 dispositions qui ont été rajoutées en termes d'article 18. On a inséré, et l'article 19 également, on a inséré quelques 6 ou 7 demi-douzaines des dispositions, voilà, ce qui nous amène environ à une douzaine de dispositions qui sont rajoutées.
On va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs, les témoignages dans leur milieu, les propositions, les pistes de solutions pour accompagner cette rafale de mesures prises par le gouvernement en vue de protéger ces enfants congolais qui sont concernés par l'adoption internationale. Maître Moussa Péry, vous êtes à Kindu, dans la province de Maniema. Maître, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour, l'invité.
On vous écoute, maître.
Oui, je suis vraiment très ravi de la mesure et que...
Maître Monsieur Pili, pourriez-vous arrêter votre poste de récepteur, s'il vous plaît, arrêter votre radio, si on peut dire ainsi. Comme ça, on va communiquer directement à travers le téléphone portable.
J'ai déjà la mise des micros.
Ok, très bon. Oui, arrêtez la radio.
Je prépare de la mesure dont les vice-premiers ministres et Évariste Bochave avaient tellement prise par rapport aux enfants congolais qui sont victimes de l'adoption internationale. Et selon laquelle ils sont vraiment manipulés à l'étranger. Mais ce qui se pose maintenant, actuellement, c'est quoi? C'est l'applicabilité. On peut prendre une mesure au Congo. Il y a de belles lois. Il y a vraiment des règlements au Congo. Mais ce qui pose problème au Congo, c'est la matérialisation de ces lois-là. On prend une mesure qui serait grave, mais comment matérialiser maintenant? Parce qu'au Congo, on a des vies. Aujourd'hui, au Congo, ici au Maniema, nous sommes ici, il y a des enfants qui n'étudient pas. Peut-être que l'enfant n'a pas père, n'a pas un père, n'a pas une mère. Et l'enfant souffre. Je vous dis bien, monsieur le journaliste, que si vous avez cette édition, vous allez comprendre qu'on nous parle de la gratuité dans l'enseignement primaire. Mais il y a des enfants qui n'ont pas des papiers, qui n'ont pas des parents, et ils souffrent, ils ne étudient pas. Ils restent encore à la maison. Ok, la constitution a prévu la gratuité. Mais monsieur le journaliste, la mesure est bonne. Maintenant, l'applicabilité, la matérialité, est-ce qu'elle sera appliquée? Les enfants congolais qui sont adoptés ailleurs, ils sont vraiment récupérés et être manipulés sexuellement. Mais permettez le terme de dire à la tribune de la radio Capi, parce que c'est vraiment dégradant, c'est vraiment un regret pour nous les Congolais. Lorsqu'on prend les Congolais, on amène à l'étranger, on veut maintenant les exploiter dans tous les plans. C'est vraiment regrettable. Je voulais juste compléter et demander si réellement cette mesure ici sera appliquée.
Et votre inquiétude, maître Moussa Ferry, vous avez raison, vous voulez savoir si les mesures prises au niveau du gouvernement peuvent être appliquées. C'est surtout quand ces enfants sont déjà dans leur famille d'accueil. Hein. Ça s'assure vraiment qu'ils sont bien protégés. C'est selon la loi, ils ne vont pas se retrouver entre les mains de couples homosexuels, des pédophiles ou des personnes souffrant des troubles psychique, voilà. Est-ce qu'on peut arriver, ça c'est selon la loi portant protection de l'enfant, comment s'assurer vraiment que les mesures qui sont prises ici à Kinshasa peuvent être appliquées à l'extérieur, surtout dans les familles où ces enfants sont adoptés? Merci beaucoup, Maître Moussa Kiri. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Bonjour.
Bonjour, M. Kiro. Bonjour à notre éditeur. Bonjour à tous les millions d'éditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Mais moi, j'estime que c'est une bonne chose. Si cette mesure a été prise au regard du règlement interministériel, ce n'est pas une mesure d'un seul ministère. Moi, j'estime que c'est une bonne chose. Dans le cadre où cette décision est de renforcer la protection de l'enfant par rapport à l'adoption internationale. Tout ce que vous savez, M. Bureau, il y a eu beaucoup d'avis qui ont été manifestes dans ce genre d'adoption, en commençant d'abord à l'adoption interne. Là où, comme l'a souligné notre invité, par rapport aux ONG, hébergeant des enfants, tout ça, il y a eu trafic de ces enfants. Là, on vendait ces enfants-là à des prix incommensurables, et ces ONG sont réfugiés sur le dos de ces enfants-là. Hormis cela, M. Pirou, vous savez que les Congolais sont les enfants les plus adoptés à travers le monde, puisque leurs parents vivent dans la disette, il y a quoi? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas quoi? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents ont manifesté une certaine responsabilité au regard de l'encadrement de leurs enfants. Parce qu'ils ne peuvent pas à celle-ci se vouer. Hormis cela, M. Pierrot, il y a eu beaucoup d'avis aujourd'hui. Ces enfants qui sont adoptés, filles, tout comme garçons, se retrouvent dans des familles d'accueil telles que dans une famille, de là où il y a des homosexuels, là où il y a des résiliens, et des fois, mais les filles sont soumises à des relations sexuelles avec des chiens, avec des chevaux. Je ne sais pas si cette commission qui a été située au niveau de nos ambassades prendra des mesures contraignantes pour éviter, pour élaguer ce système-là qui est employé par les familles d'accueil. Or, aussi longtemps que si ces commissions qui sont instituées n'ont pas un œil regardant par rapport à ça, moi je suis que c'est une peine perdue. Alors, si de cette loi, puisque il y a un projet de loi qui sera en soumission au niveau de l'Assemblée, et derrière ce projet de loi, il n'y a pas la tracasserie, puisque nous savons aujourd'hui, beaucoup d'étrangers cherchent à adopter les enfants congolais. Mais derrière cette tracasserie, tracasser les familles d'accueil par rapport aux différentes personnes qui sont situées ici au Congo, par rapport à certains services qui sont au niveau des frontières. Ça, nous ne voulons pas. Nous, tout ce que moi je peux dire, c'est une mesure sanitaire. Comme il y a eu un enfant, il y a eu beaucoup de vie, il y a eu une étude en profondeur pour libérer le premier lot, c'est une mesure sanitaire. Moi, je pense que ça peut continuer comme ça en attendant que le projet qui est soumis au niveau de l'Assemblée nationale soit accepté. À ce moment-là, nos enfants congolais se retrouveront un peu sécurisés. Mais tout ce que je peux demander maintenant au gouvernement, c'est d'améliorer les conditions des Congolais, les conditions de vie des Congolais, de créer les emplois. Quand bien même notre premier ministre nous avait dit qu'il créait 100 000 emplois par an qui ne sont pas visibles, moi j'aimerais que ce gouvernement puisse être un gouvernement responsable, parce que cela termine même l'image de notre République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous saluez les mesures prises par le gouvernement, la mise en place de la commission interministérielle, mais vous auriez souhaité que cette commission puisse travailler surtout à l'extérieur, hein, pour qu'on garde un œil sur ces enfants qui sont adoptés à l'étranger, leur famille d'accueil, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas victimes de toute autre exploitation et les abus qui ont été dénoncés tout à l'heure par notre invité. Mais vous avez aussi souhaité que l'État puisse, d'une manière globale, assurer l'amélioration des conditions de vie de la population pour éviter que les gens ne soient tentés de pouvoir vendre ses enfants dans des survies à cause de la pauvreté. Merci beaucoup. Galvani, vous êtes en Boujimaï, au Kassai oriental. Bonjour Galvani et bienvenue dans cet échange.
Oui. Merci beaucoup. Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kassai.
On vous écoute Galvani.
Et merci pour la parole. J'encourage aussi et je salue aussi l'initiative qui par le vice-premier ministre de l'Intérieur, vu que nous constatons beaucoup d'abus en matière d'adoption, surtout concernant les enfants qui sont adoptés dans certains pays, qui se retrouvent dans de mauvaises mains, soit dans les gens qui n'existent pas sexuellement, soit qui sont adoptés par les homosexuels, ce qui n'est pas aussi bon pour leur croissance. Et aussi, pour que maintenant cette mesure puisse vraiment bien être appliquée, les ambassades de notre pays vers le pays qui accueille ces enfants-là doivent aussi aider le gouvernement. Ils doivent aussi faire le suivi. Donc, ici, localement, le ministère doit envoyer aussi à chaque ambassade où l'enfant va se retrouver. Et l'ambassade doit commencer à suivre comment l'enfant est traité, comment sa croissance, comment l'enfant est traité, comment la famille qui l'accueille d'abord, comment ça se passe, tout ça. Parce que, apparemment, ça se passe que dès que l'enfant est adopté, il part et on le laisse et on l'oublie. Et aussi, ce n'est pas aussi une situation à encourager, l'adoption des enfants. Si vous remarquez bien, ces enfants, ce sont soit des enfants là, ce sont soit des enfants vulnérables, qui sont dans des situations difficiles. Alors, si aussi, en amont, le gouvernement peut prendre des mesures, moi je dis, améliorer aussi la situation de la population, ça fera aussi du bien et on aura au moins à parler concernant l'adoption des enfants à l'étranger, parce que chaque enfant restera à côté de ses parents et vivra mieux.
Merci Galvani. Et vous avez souhaité l'implication de nos représentations diplomatiques à l'extérieur dans les suivis de ces enfants pour se rendre compte de dans quel état, dans quelles conditions ils sont en train d'évoluer dans leur famille d'accueil. Merci beaucoup Galvani. Cyril, vous êtes à Bandundouville. Bonjour Cyril. Cyril, bonjour. Cyril, vous êtes avec nous, bonjour.
Vous avez dit dans la ville de Bandundu. Monsieur le journaliste, il y a un problème. Le ministère de l'Intérieur, sur cette question, doit travailler en synergie sur cette question avec le ministère des Affaires Sociales, des OGD et d'autres organisations qui militent en faveur des enfants à République démocratique du Congo. Parce que nous remarquons souvent une prolifération des OGD qui ont pour une mission la prise en charge des enfants. Mais en réalité, messieurs les journalistes, ils ne les font pas. Souvent, ils sont là pour leur commerce et trafic. Les expatriés à la tête de ces structures, souvent, à la langue qui font voyager nos jeunes filles et nos enfants, soi-disant qu'ils sont partis approfondir leurs connaissances sur la formation à l'étranger. Mais vous apprendrez plutôt... Quelque part après, vous allez apprendre que là où ils sont partis, ils sont exploités. Mais c'est le journaliste. que les ministères de l'Intérieur essayent d'identifier de prime abord, avant l'adoption de cette loi, les OGD qui militent en faveur des enfants et qu'il essaye d'aller, même s'il n'a pas encore des éléments, qu'il prenne le courage d'aller rencontrer, je ne sais pas, le ministère des Affaires Sociales, avant qu'il lui donne la liste exacte des OGD là, qui travaillent en faveur des enfants en République du Congo. Parce que pour éviter les pires, mais si aujourd'hui il adopte ça facilement, évidemment, il a, bon, je ne sais pas, mais il a laissé un laisser aller. Vous savez, les journalistes, nous avons un problème aussi au Congo. On adopte beaucoup de lois, mais on ne fait pas attention à un point qui est essentiellement, c'est quoi ce point? C'est d'abord passer à l'examen total ou réel de ces textes-là ou de ces sujets-là. Parce que si vous l'adoptez sans avoir commencé à déguerpir des maladies qui peut demain ou le lendemain engendrer des conséquences néfastes, pour dire que voilà, la loi qu'on a adoptée ne produit rien, il n'y a pas la matérialisation de cette loi, il n'y a pas l'applicabilité de cette loi, vous comprenez, c'est ça qui pose problème. Il est temps. L'heure est en conséquence interpellée. Chacun, chacune de nous est en conséquence interpellée, que nous puissions aujourd'hui dire clairement que il faut que le ministère de l'Intérieur essaie d'identifier les OGD. Même les OGD qui sont dans des provinces, c'est très important, parce que ces OGD, parfois, qui passent par des moyens clandestins pour pratiquement exporter ou même faire voyager. Bon, souvent, bon, ils sont avec des jeunes garçons, des jeunes filles, mais ils font le voyage que de jeunes filles. C'est ce que nous remarquons. Pourquoi simplement ils font voyager les jeunes filles pour aller suivre la formation, aller, je ne sais pas, approfondir leurs connaissances? Vous apprendrez plus tard que les jeunes filles-là, au niveau de là, ils sont plutôt, elles sont exploitées abusivement. Elles font, je ne sais pas, la prostitution en Europe, elles sont devenues, je ne sais pas qui fait cela, des maîtresses,
des cadavres,
qui nettoient dans les hommes de billard, etc. Et vraiment, ces jeunes filles-là appellent au Congo ici, ils appellent leurs frères et sœurs pour dire « Papa, pas, je suis venu ici, la vie ne tourne pas, voilà ce que je fais comme travail. » Donc la mission est déviée. Et là, c'est plus grave, c'est plus grave. C'est
alors, vous avez écouté Cyril, qui est la collaboration entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires Sociales et le ministère de l'Intérieur travaillent ensemble hein, pour d'abord identifier des structures d'encadrement des enfants. Parce que tous ces abus sont partis aussi du fait qu'il y a des orphelinats dans lesquels on s'est rendu compte qu'il y avait des cas de trafic. D'ailleurs, ça a été débattu dans cette émission avec plusieurs fois, avec des ONG de défense des droits des enfants. Vous avez souhaité que le ministère de l'Intérieur travaille en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales pour d'abord identifier des orphelinats. C'est ces structures qui encadrent les enfants à travers lesquelles, des fois, le circuit des trafics est organisé. Merci beaucoup, Cyril. Docteur Aron, vous êtes à l'ISTALA. Bonjour, Docteur Aron.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Docteur Aron. Vous avez suivi les issues aujourd'hui, hein, la plupart des compatriotes qui interviennent, c'est de voir l'État congolais surtout s'impliquer pour la protection de ces enfants qui sont déjà adoptés pour qu'on se rende compte qu'effectivement ces enfants n'ont pas été adoptés pour les différents abus que l'invité a évoqués au début de cette émission. Alors pour y arriver d'une manière plus efficace, qu'est-ce que vous proposez?
La première des choses, Monsieur Perrault, moi, je vais proposer seulement au Premier ministre le veiller, c'est qu'il a proposé parce que c'est une initiative et il a trouvé l'amour appris à faire ce qu'il a fait. Et il faut aller maintenant jusqu'au bout. C'est ce qu'on doit faire tout le temps, c'est parce que on peut devoir faire de
La limite se détériore entre l'ISTALA et Kinshasa, mais vous avez souhaité que le vice-premier ministre puisse aller jusqu'au bout hein, avec les mesures qui sont initiées pour arriver vraiment à s'assurer de la protection de ses enfants. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Docteur Aron, dommage pour votre ligne téléphonique. Nous allons revenir tout à l'heure à notre invité, 081-890-6315.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Kapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 10h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour des provinces, vivez les informations avec les reporters de Radio Kapi.
Albert Pacard, vous avez suivi les compatriotes, tous sont revenus hein, sur les mesures prises par les gouvernements qui les saluent, mais ils ont pu se souhaiter qu'il y ait une synergie, le ministère des Affaires sociales soit aussi impliqué en ce qui concerne l'identification de toutes ces structures qui encadrent les enfants, peut-être à travers lesquelles des réseaux sont organisés. Mais la grande question aussi, c'est par rapport à l'avenir de ces enfants, une fois adoptés, comment peuvent-ils être suivis? Et là, Cyril a parlé tout à l'heure, c'était aussi le point de vue de Galvani de Mouzouma qui a insisté sur le rôle de représentation diplomatique hein, pour pouvoir comment se rendre compte que les enfants qui sont adoptés soient protégés selon nos lois et qu'ils ne tombent pas entre les mains des différents réseaux qu'on a décrit au début de cette émission.
Allô?
Oui, Albert Pacard, vous avez
voilà,
oui.
Exactement. Mm-hmm. Merci d'abord aux fidèles auditeurs qui sont intervenus. Ils ont posé des questions d'une très haute pertinence, ce qui me laisse croire effectivement qu'ils ont un intérêt quelconque à la protection de nos enfants. Et effectivement, dans la nouveauté qu'apporte la nouvelle loi, la plupart de ces questions et ces préoccupations ont été rencontrées. D'abord sur le suivi de nos enfants. Je pense qu'une des réponses qui a été donnée, dans l'État, n'est peut-être pas parfaite, mais le gouvernement a proposé que d'abord, dans un premier temps, que l'adoption ne soit consentie que pour les adoptants ressortissants des pays dans lesquels la démocratie du Congo dispose d'une mission diplomatique, de sorte que qu'on ait des services qui puissent éventuellement faire un suivi dans la mesure de ce qui est possible.
Oui.
Et secondo, je pense qu'il y a une obligation pour les adoptants qui sont venus adopter des enfants ici en République du Congo, à leur retour, de faire enregistrer ces procédures au niveau de nos missions diplomatiques. Ce qui permet évidemment à ces missions-là d'éventuellement assurer un suivi. Nous pouvons d'ores et déjà dire que ces mesures, quoique elles ne sont pas parfaites, peuvent nous donner l'amorce de ces contrôles. Il y a aussi quand même un contrôle qu'il faut mentionner, c'est que il y a une difficulté. En fait, cela vient de la difficulté qu'une fois un enfant est adopté, rassurons-nous, il y a des règles de droit international, cet enfant, la plupart des cas, prend la nationalité du pays de ses parents, ses nouveaux parents. Et qu'une fois cet enfant devient citoyen des pays étrangers, en dépit de notre très bonne volonté, notre préoccupation, notre amour, mais je veux dire que ces changements de nationalité fait échapper ces citoyens de tout contrôle, à vrai dire, de son ancienne nationalité, de son ancienne nationalité. On doit tout de suite voir qu'il y a des limites, et que ces limites, on ne peut pas, évidemment, aller au-delà. Bon, nous pouvons pas non plus nous avouer vaincus, simplement, dans la mesure où il y a des collaborations qui sont proposées, évidemment, entre structures de suivi de procédures d'adoption. Chaque pays a un organe administratif qui assure le suivi de procédures d'adoption. Donc, de retour, la République démocratique du Congo assure une collaboration très, très proche et nette et de confiance avec ces structures pour que ces contrôles post-procédure d'adoption se fassent évidemment à travers ces structures-là. C'est des engagements qu'ils prennent avant de pouvoir autoriser l'adoption, qu'ils s'engagent à l'égard de la République démocratique du Congo, d'assurer que, comme entité administrative de ces pays-là, d'assurer ce suivi et de s'assurer que les enfants ne sont pas détournés de l'objectif pour lequel ils ont été initialement adoptés. Voilà, et parmi les nouveautés, évidemment, on ne les dira jamais assez, on a proposé qu'effectivement, désormais, au niveau de la procédure d'adoption, avant de pouvoir consentir ou engager un mécanisme d'adoption, le préalable, c'est de pouvoir s'assurer que ce n'est pas seulement pour des motifs de précarité financière, de pauvreté, que le parent consente à une adoption. Parce que on sait que certains parents, malheureusement, dans la crise généralisée de la plupart de nos sociétés africaines, particulièrement, mais
s'enrouler avec l'Allemand, on a tendance évidemment à consentir, à abandonner évidemment l'autorité parentale en allant s'en remettre, se recommander à une procédure d'adoption internationale. Voilà pourquoi on a dit que le principe voudrait que la précarité, la seule précarité, n'est pas un motif suffisant pour pouvoir amorcer une procédure d'adoption.
Mm-hmm.
Ensuite, a-t-on dit, l'adoption, ça l'a été, mais on a renforcé le principe de la subsidiarité qui voudrait que on ne peut envisager une adoption internationale que lorsqu'il n'y a aucun mécanisme interne n'est possible. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a eu d'abord prioritairement la possibilité d'offrir à l'enfant un cadre de vie familiale ici au pays. Si cette possibilité n'est évidemment pas envisageable, évidemment là, on pourrait autoriser l'adoption internationale. Voilà quelques principes qui, évidemment, qui ne répondent pas à toutes les préoccupations. Mais c'est un travail de longue haleine. Je pense que pour la plupart nos fidèles auditeurs ont suffisamment souligné que sinon c'est rarement les lois qui posent problème ici, mais plutôt l'application des lois.
C'est
une application effective. Et là, je m'appelle évidemment la responsabilité de tout le monde, chacun à son niveau. Nous devons nous rendre compte que ce n'est pas nécessairement l'affaire du gouvernement, mais que c'est l'affaire de tout le monde, chacun à son niveau de responsabilité, pour pouvoir en assurer le suivi. Notre ami a parlé de la nécessité de contrôle des ONG. Oui, il a parfaitement raison, effectivement. Ce contrôle se fait à travers le ministère sectoriel, le ministère des Affaires sociales, mais il est clair que c'est Action humanitaire, il est clair qu'aujourd'hui, la transversalité de la matière fait en sorte que nous travaillons tous en synergie. Dans la commission que j'ai évoquée tout à l'heure, nous avons les représentants de chacun de ces ministères et les représentants, je veux dire, les points focaux, ceux qui ont la charge de ces questions dans leur ministère, ils sont autour de la table, ils se prononcent méticuleusement sur toutes les questions qu'on envisage et chacun apporte les informations dont il dispose au niveau de son ministère. Donc cette commission a été effectivement une commission qui a tenu compte de cette transversalité, même au niveau gouvernemental, c'est comme ça que ça a été géré. Le vice-premier était entouré, évidemment, de tous les autres excellences, ministres sectoriels, chacun en ce qui le concerne, et je pense que c'est de cette manière qu'on peut améliorer les choses.
Voilà, nous avons Maître Trésor Likonza qui est ici à Kinshasa et Mazarin qui est à Kananga. Maître Trésor, bonjour. Maître Likonza, bonjour.
Bonjour, Roger.
On vous écoute. Alors, pour vous, comment chacun a défini de sa façon comment les mesures peuvent être prises pour accompagner l'adoption internationale des enfants, surtout en ce qui concerne leur sécurité et leur survie, et aussi qu'on se rende compte effectivement que ces enfants ne sont pas victimes des abus. Vous avez suivi comment l'invité a présenté une batterie de mesures prises par le gouvernement, quand bien même il ne pourrait pas résoudre toutes les questions, mais ça peut quand même permettre qu'on garde la traçabilité du pays d'adoption jusqu'au pays où l'enfant va vivre. Quel est votre niveau de contribution à ce niveau du débat?
Bon, merci beaucoup. Je félicite d'abord le vice-premier ministre de l'Intérieur pour son initiative. Il a eu ses soucis de cette question de l'adoption des enfants congolais. Et c'est une question très préoccupante pour tout le monde. Et l'invité, je le salue. Il a dit que la responsabilité doit être partagée, chacun doit prendre ses responsabilités, oui. Mais ici, moi, je voudrais simplement revenir sur cette question pour dire que la responsabilité doit rester partagée. Mais avant que chacun ne puisse s'assumer, il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, qui a pris les choses à bras le corps, puisse mettre en place une structure efficace, autonome, qui devra encadrer toutes ces mesures-là et assurer un suivi efficace sur le terrain. Puisque si on laisse la situation telle qu'elle est aujourd'hui, nous risquerons de revenir sur les mêmes causes. Et il y aura toujours les mêmes effets puisque la situation ne va pas évoluer. Au jour le jour, il y a les parents étrangers qui cherchent à adopter les enfants congolais et les choses se font nuitamment, de manière assez nuisible. Il y a l'obscurité, il y a aussi les trafics d'influence, il y a la corruption, il y a beaucoup de choses qui font que les enfants congolais
soit délaissé entre les mains parfois des gens qui n'ont pas de qualité d'adopter.
Mm-hmm.
Je peux revenir sur trois critères. Pour que l'enfant soit adoptable dans ce pays, il doit manquer une filiation connue. Et il doit être déclaré judiciairement abandonné. Ses parents ou ses représentants légaux doivent consentir personnellement à cette adoption. Mais seulement pour ces trois critères, je pense que les choses se font d'une autre manière. C'est pourquoi j'ai déjà proposé depuis il y a quelques mois, au cours de cette émission, lorsqu'on parlait de l'adoption internationale, que la RDC puisse mettre en place une commission nationale qui s'occupera rien que de l'adoption, surtout au niveau international. Et cette commission devrait être partiellement indépendante du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Ces animateurs devront être responsables devant l'Assemblée nationale. Et pour que un jugement d'adoption soit prononcé, le requérant doit fournir les preuves que cette commission a déjà avalisé ou bien accepté les documents, que la commission déclare d'abord les documents valables pour l'adoption. Donc, le jugement de l'adoption sera à ce moment-là comme une sorte de formalité. Et nous allons épargner nos juges de beaucoup de reproches, puisqu'eux aussi sont accusés parfois de donner des jugements d'adoption, même lorsque les adoptants n'ont pas qualité, ne sont pas capables de bien gérer ces enfants-là. Et par rapport à les homosexuels, les personnes homosexuelles ou le couple homosexuel, c'est déjà interdit par la loi congolaise. Mais si on reproche encore cette situation, c'est parce qu'il n'y a pas un bon encadrement des mesures prises. Et le suivi au niveau international va revenir à cette commission qui devra fournir les efforts pour être en contact avec d'autres organismes qui sont installés dans beaucoup d'autres pays, notamment en France où il y a la MAI qui travaille certainement de manière assez sévère pour pouvoir rendre plus transparente et puis plus claire la procédure d'adoption des enfants.
Merci. Donc, merci beaucoup, Maître Likonza. Vous avez souhaité, d'ailleurs, c'est votre proposition aussi dans l'émission passée, qu'il y ait une commission nationale autonome, que ce soit le ministère de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères. Vous aviez aussi ajouté le ministère de la Justice. Cette commission qui est chargée uniquement de suivi de l'adoption internationale, qui peut faire le pont entre la justice et toutes les autres procédures pour qu'il y ait vraiment un suivi, un contrôle et une transparence. Merci beaucoup, Maître Likonza. À Kananga, au Kasaï, Central, Mazarin, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Pierrot et la Nagie, bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Capu.
On vous écoute, monsieur.
Ça va, moi je pense que cette mesure-là prise par le vice-premier ministre qui est monsieur Bouchard, c'est une bonne mesure. Maintenant, je demanderai aussi au niveau du ministre ce qu'il puisse un peu mettre une commission diligemment pour que cette commission-là puisse vérifier que réellement les enfants qui sont adoptés dans le pays étranger sont bien contrôlés et ont une vie normale comme la vie qu'ils sont en train de mener. Et je connais aussi un petit cas. Je connais un petit cas d'une fille qui a été adoptée dans un pays étranger, mais dont l'usage a été à d'autres fins. Je connais cette fille-là, après un moment, on utilisait déjà des abus sexuels. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Après un moment, on donnait l'argent à l'adoptant pour qu'on puisse un peu se coucher avec cette fille-là. Après un moment, excusez-moi le terme, après un moment, la fille s'est rendue compte que le niveau de vie n'était pas favorable et elle a quitté cette famille-là. Par là, je voulais demander un peu à l'invité si tu peux nous dire à quel âge on peut adopter un enfant et qui peut être adopté et qui peut adopter encore un enfant. Merci beaucoup, c'est Mazarin Blanc-Famba, un étudiant de droit à l'Université du Canada.
Merci beaucoup, Mazarin. Vous êtes étudiant de droit à l'Université des Canadiens, vous avez souhaité aussi, comme les autres, qu'il y ait une commission de suivi. Et là, vous avez demandé à l'invité à quel âge, en principe, on doit adopter un enfant et ceux qui doivent adopter, qui dit la loi, ça c'est autour de la loi, ils doivent remplir quels critères. Merci beaucoup. On revient rapidement à Albert Paca pour donner peut-être la réponse, comme c'est une question directe à notre ami Mazarin des Canadiens, sur l'âge de l'adoption, mais aussi les conditions que doit remplir l'adoptant. Rapidement, Albert Paca, vous avez suivi cette question.
Bien entendu, bien sûr, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt cette question. Je pense que c'est tout à fait clair au niveau de la loi. La loi, le code de la famille dit très clairement que il y a des limites d'âge pour adopter un enfant. La seule limite, qui existe, c'est que il faut un minimum de 15 ans entre l'adoptant et l'adopté. C'est un intervalle de 15 ans qui est long. Ça veut dire qu'un bébé d'un mois, dont par exemple les parents ont disparu à la suite d'un accident, est parfaitement adoptable s'il y a un cas de visite qui les reprend à charge tout de suite. Nous avons également une autre limite qui existe lorsque, par exemple, il s'agit d'un conjoint qui adopte l'enfant de l'autre, son époux qui l'amène en ménage, évidemment. La seule limite est la limite des 10 ans. Là, évidemment, on permet que un conjoint puisse adopter l'enfant de son époux ou de son épouse qui vient en ménage. La seule limite, c'est qu'il faut un minimum de 10 ans entre les deux. Au-delà de ces conditions, en fait, il n'y a pas de limite d'âge. Il y a une idée, évidemment, d'exiger qu'un enfant ne soit adoptable qu'à 7 ans. Cela ne répond évidemment pas à l'intérêt général de l'enfant. Vous savez bien, quand vous adoptez un enfant, celui-là, à 7 ans, celui-là a déjà une éducation, il est déjà élevé. On ne peut pas le limiter, sinon que la seule possibilité pour certains couples de venir reprendre l'éducation qui a déjà été menée à l'âge de 7 ans, les choses sont assez compliquées. Donc je pense que ceux qui veulent adopter à l'âge de 7 ans ou à 12 ans, c'est permis, c'est autorisé, mais quand même l'opportunité de choisir. En général, la loi ne donne pas les limites, malheureusement. Ou heureusement, pour moi, parce que nous devons garder en tête que dans ces démarches, le premier principe, le premier critère, ça reste, le premier objectif, ça reste l'intérêt supérieur des enfants. Ce qui est un concept, évidemment, je vous l'accorde, somme toute, très vague. La loi, la protection de l'enfant, en donne quelques principes. Nous avons également une doctrine très abondante sur cette question-là. Nous pouvons fatalement nous en référer. On a des éléments pour apprécier, mais aujourd'hui, c'est le juge, comme on a voulu judiciariser la procédure, c'est le juge qui est fait l'habilité à dire que dans cette procédure, l'intérêt des enfants est bien respecté. Pour revenir encore à la préoccupation d'une commission, effectivement, cette commission, que tout le monde a appelé de ses voeux, sera probablement revenu évidemment au niveau de mesures d'exécution, mais effectivement, il y a une tendance à standardiser toutes les procédures au niveau mondial parmi tous les pays qui sont signataires de la Convention sur la protection de l'enfant et de la Convention sur les droits de l'enfant. Donc, ces pays, évidemment, sont d'accord qu'il faille créer des structures appropriées, spécifiques, et spécialisées pour prendre en charge le suivi des personnes qui concernent les enfants, particulièrement les personnes d'option internationale. Voilà, on ne s'attira pas davantage sur le clou, il s'enfonce progressivement. Je pense qu'effectivement, tout le monde va emboîter les pas, sur la société civile, les structures gouvernementales, les services administratifs. Je crois que tout le monde va pouvoir se ressaisir. Et c'est dire que les enfants sont vulnérables. Nous avons le devoir de protéger à la fois nos propres enfants, mais également les enfants des autres, parce que c'est l'avenir de la société, c'est ceux-là qui vont demain s'occuper de nous.
Maître Laurent, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Maître Laurent.
Bonjour, cher ami. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, les gens sont revenus à plusieurs fois. À plusieurs ont insisté sur le rôle du ministère, la commission qui doit travailler, les suivis, tous ces mécanismes. Il y en a aussi qui ont dit qu'il fallait d'abord partir à la base, hein, savoir quel est le souci aujourd'hui d'encadrement des enfants dans notre pays, parce que les abus qui ont été dénoncés sont partout aussi des structures d'encadrement des enfants, que ce soit en province ou les enfants qui étaient encadrés comme orphelins au Bandundu, au Kassai, se sont retrouvés à Kinshasa, et après on apprendra qu'ils sont aux États-Unis. Voilà un peu, toutes ces mesures doivent être prises pour pouvoir protéger, c'est l'intérêt, l'invité le disait, l'intérêt, tout ça, le but, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors comment on doit arriver pour le faire d'une manière efficace, Maître Laurent?
Justement, nous ne devons pas cacher les choses. Il faut avouer que l'adoption a, dans notre pays, à un moment donné, pris une dimension commerciale. Mm-hmm. Et donc, les problèmes ne sont généralement pas posés sur le plan de l'adoption interne. La plus grande problématique, c'est sur l'adoption internationale. J'avais décrié en ce temps la décision prise par le gouvernement de pouvoir interdire que les parents qui ont légalement adopté leurs enfants ne voyaient pas ses enfants sortir du pays sous un prétexte vraiment incongru. Étant entendu qu'au-dessus de la loi, on ne pouvait pas prendre une mesure gouvernementale pour étouffer cette loi, nous devons savoir que la loi, belle ou mauvaise soit-elle, quand elle est votée, c'est l'émanation de la volonté populaire, n'est-ce pas, par le biais de la représentation nationale qui est le Parlement. Mais donc aujourd'hui, cette avancée, nous nous en félicitons, mais seulement, moi, le format de la commission qui m'inquiète, parce qu'on connaît comment nos commissions dans notre pays sont généralement constituées et les missions qu'ils effectuent. Au lieu de faire une redondance institutionnelle, il n'est pas interdit à chaque citoyen de faire ses propositions. Moi, personnellement, j'avais fait une correspondance à son temps au niveau du gouvernement pour dire que pourquoi ne pas créer au niveau de différents pays dont nous avons des représentations diplomatiques et des différentes commissions dans les ambassades et conditionner au niveau de la loi que seul le pays dont nous avons des relations diplomatiques peuvent faire l'adoption internationale à ce qui concerne le Congo. Comme ça, lorsque nous avons des différentes chambres ou des commissions, telles qu'on va les appeler, mais au moins au niveau de chaque représentation diplomatique, qu'il y ait un suivi, parce que aujourd'hui on parle de l'esclave sexuel que beaucoup de nos enfants sont soumis, des traitements inhumains, la réduction de pratiques totalement anarchiques. Et c'est pour cette raison que nous avions pensé qu'il aurait fallu que l'on ait des organes dans les différentes représentations diplomatiques qui doivent impérativement opérer le suivi, parce que le problème se pose plus sur le plan de l'adoption internationale.
Maître Laurent, vous êtes encore avec nous. C'était plutôt Maître Laurent est parti, il est encore là. Oui, Maître Laurent, mais l'invité disait l'invité disait tout à l'heure, effectivement, dans la proposition des lois, il y a effectivement cette condition que l'on peut adopter, qui est il y a un ressortissant d'un pays dont la RDC est représentée aujourd'hui. C'est ce que l'invité venait de dire au début de l'émission d'ailleurs.
Non, moi je crois que ça n'est qu'un amendement. Le projet tel qu'il est venu au niveau national, cette assise n'était pas là. Si cette avancée-là a été incluse, moi je crois que nous devons nous en féliciter. C'est un bon pas, mais il faille effectivement qu'on mette un accent particulier sur le fait que cette commission ne doit pas être sur le plan national, parce qu'elle aura des problèmes, des moyens pour voyager et puis faire cette vérification-là. Lorsqu'on a ces commissions au niveau des ambassades, je crois que ça va faciliter énormément la tâche pour faire le suivi, parce qu'on ne peut pas accepter que les enfants congolais qui sont adoptés soient traités à des esclaves sexuels au niveau des parents adoptifs. Ça, c'est franchement incompréhensible.
Mais Maître Laurent, tout à l'heure, notre invité s'inquiétait aussi par rapport aux limites. C'est parce qu'il disait que d'ailleurs, avec des lois des pays d'adoption, ce qui arrive aussi, c'est que ces enfants ont désormais la nationalité de ces pays-là. Il a dit que quelque part, on a quand même des limites. Peut-être qu'on ne saura pas aller plus loin dès lors qu'il y a aussi des limites en termes de nationalité, en termes de lois de ces pays, quand même aucun pays ne peut aujourd'hui accepter qu'un enfant soit adopté pour qu'il soit transformé en esclave sexuel ou en donneur d'organes ou les travaux forcés.
Oui, effectivement. Au fait, la loi, même la Convention internationale sur le domaine, est très précise et ne pose aucun problème. Ici, nous décrions le déviationnisme, même sur le plan interne. Notre code de la famille, que nous voulons réviser aujourd'hui, elle a de très bonnes dispositions concernant la protection de l'enfant. Mais seulement la difficulté, c'est que
comme il y a des liaisonnismes au niveau de ceux qui pratiquent, c'est pour ça que nous avons une commission pour opérer le suivi régulier des enfants adoptés. Mais à ce qui concerne la limite d'âge, moi je crois qu'il y a certaines discriminations qu'on appelle positives, qu'on peut tolérer. Étant entendu que si on admet l'adoption, le principe est connu, c'est juste pour protéger généralement, en premier lieu, la vulnérabilité des enfants, parce que vous savez que sur le plan international, le fondement des différentes ONG qui définissent ici pour faciliter cette adoption évoque la conditionnabilité des enfants qui sont sans parents, les enfants qui sont en situation difficile, et comme l'État congolais n'a pas de moyens de faire face à cette obligation d'ailleurs légale et constitutionnelle, c'est pour cette raison qu'il y a ce flux qui fait que beaucoup de couples des internationaux viennent adopter les enfants. Là, ils ne se posent pas un problème. Mais limiter un certain âge, bien sûr, c'est logique, il est entendu que lorsqu'une personne atteint un âge très avancé, 20, 25 ans, on estime qu'elle peut de soi-même, n'est-ce pas, tracer un corridor de vie où elle pourra se prendre en charge. Et le plus vulnérable sont effectivement des enfants, mais il faut qu'il y ait à marge de l'adoption un suivi régulier par les autorités compétentes. Et j'insiste sur le plan de moyens. Parce que la commission est constituée par le gouvernement congolais existe sur le plan interne. On se dit que c'est un problème, on connaît notre budget, comment il est maigre jusqu'à présent.
Les
moyens pour faire face à différents allers-retours dans ce pays pour faire le suivi poserait un problème. Pourquoi la proposition d'avoir ces organes ou ces commissions
au niveau des ambassades.
À nos différentes représentations diplomatiques.
Merci beaucoup, Maître Laurent, pour toutes ces précisions. Nous allons écouter Élie, qui est à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Élie, bonjour et bienvenue dans cet échange.
Ah oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les journalistes de la radio Kassou. Alors, à ce qui concerne ce que monsieur Bouchab avait suggéré, bon, donc moi je te dis que c'est une bonne suggestion et c'était une bonne initiative qu'il a prise. Mais malgré cela, avant de faire cela, est-ce qu'il ils se sont d'abord concertés quand les autorités du gouvernement congolais savoir la cause qui fait que le parent commence à avoir beaucoup d'initiatives de pouvoir toujours faire adopter les enfants en masse, surtout dans des familles occidentales. Bon, je peux dire quoi? Cette phrase-là, il faut que nous puissions, il faut qu'on puisse créer un service de suivi après l'adoption. Là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour moi, en tout cas, que cela soit fait. Que ça ne soit pas seulement par la parole en disant on va créer un comité de suivi, mais que cela soit fait parce que beaucoup de gens sont en train de faire adopter les enfants. On ne sait même pas là où ces enfants sont en train de partir. Il y a surtout les filles qui sont en train de devenir les esclaves sexuels là qui sont en train de partir. Il y a les garçons qui sont soumis à des travaux forcés, comme l'a dit le prédécesseur qui vient d'intervenir tout de suite là. Alors, avec cela, nous sommes en train de voir aujourd'hui tous les parents congolais. Avec 3, 4, 5 enfants, mais avec un salaire misérable là, et avec une condition de vie misérable, ils ne savent pas comment nourrir les enfants, comment les faire étudier. Alors, ils commencent à chercher comment se débarrasser de ces charges. Alors, ils sont en train de vouloir faire adopter des enfants en disant que moi, je suis bien à côté au cœur de Fulabiso. Ils sont en train de vouloir faire adopter des enfants pour avoir quelque chose dans la vie en disant que demain ou après-demain, cet enfant peut se souvenir de nous qui sommes des parents ici en Afrique. Et alors, peut-être que là, ça peut être le contraire de ce cas. Quand les enfants arrivent là-bas, il y a d'autres qui sont maintenant devenus, je sais dire quoi, les esclaves, les garçons sont soumis à des travaux forcés avec dans le.
D'où la nécessité d'avoir une commission de suivi, et ça a été évoqué tout à l'heure, mais vous êtes aussi revenu, comme l'invité d'ailleurs l'a dit, le souci aujourd'hui c'est de permettre à l'enfant de retrouver un cadre vital qui puisse lui permettre de répondre à ses besoins. Si on a ces enfants qui sont encadrés, et peut-être un peu seulement, qui se retrouvent en difficulté, parce que c'est possible que les difficultés on peut en connaître, on peut avoir des orphelins, mais l'idéal c'est d'offrir à l'enfant un espace vital minimum, et comme ça on peut peut-être diminuer ces flux, ces tendances élevées de l'adoption internationale. Merci, vous avez été nombreux les auditeurs. On revient à vous, à Albert Baca, pour conclure cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une minute et demie pour la conclusion de cette émission? Oui, Albert Baca, vous êtes avec nous?
Oui,
voilà. Pour la conclusion de cette émission, on a écouté les uns et les autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir en une minute?
En une minute, je pense que nous sommes tous responsables. Nous savons que
à côté des habits qui ont été décriés, il y a beaucoup d'autres heureuses expériences où des parents qui ont accepté, consenti, de donner leur amour à des enfants congolais et les ont amenés à l'étranger. C'est pour nous, en tout cas, une opportunité de laisser les enfants trouvent également des pertes de vie qui n'ont pas pu trouver ici. Il y a des expériences positives. Malheureusement, il y a également des abus. Nous devons nous répondre en adulte. Nous devons assurer cette protection. Et cette réponse doit être nécessairement collective. Je suis content qu'on soit revenu suffisamment sur l'idée d'une commission des suivis. Mm-hmm. Effectivement, je crois que cela parvient aux oreilles des décideurs. J'ose croire qu'à l'avenir, cette commission sera là et que surtout cette commission devrait s'ouvrir à tous les organes possibles, à la société civile, à tous les responsables pour pouvoir, jour après jour, prendre des mesures suffisamment protéger nos enfants. Voilà. Je ne peux que, sur cet espoir, remercier tous nos fidèles auditeurs et vraiment Radio Papi qui nous a donné l'opportunité d'échanger avec nos compatriotes.
Merci beaucoup, Albert Pata. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs des cabinets adjoints à la vice primature au ministère de l'Intérieur et des Sécurités. Merci en tout cas de votre disponibilité aussi pour cet échange avec les auditeurs à qui nous disons merci parce qu'ils ont été nombreux à écouter et à intervenir de la parole aux auditeurs depuis le début de la semaine. On vous dit tous merci.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
Merci à toute l'équipe des productions de Parole aux auditeurs. Gilles Longuembo était à la réalisation et la coordination. Jean-Mel Mokondo à la mise en ordre. Julie César Bombonda a assuré le contact avec vous au standard des Paroles aux auditeurs. Et puis, la Médie a eu le plaisir de vous présenter cette émission sous la supervision de Martin Sébastien de Parole aux auditeurs sur le site sur www.radiocapi.net. Il nous reste à vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.